Vous écoutez France Culture.
Tout de suite, les enjeux internationaux, c'est le début des matins, jusqu'à 9h, les enjeux internationaux, Thierry Garcin, l'Iran aujourd'hui, bonjour à vous Thierry.
Et bonjour Marc Moinchet, donc tout de suite notre invité, merci d'être avec nous en direct, David Rigoulet-Rose.
Bonjour.
Vous êtes chercheur et enseignant, vous avez publié cette année chez l'Harmattan un gros ouvrage intitulé « L'Iran pluriel, regard géopolitique ». On va parler du fonctionnement du régime et des tiraillements actuels, comment les interpréter, comment les caractériser d'abord. Alors il y a le guide, les gardiens de la révolution, le président, le premier ministre, le parlement, le clergé entre guillemets. Sans parler des fondations, associations et sociétés multiples, on pourrait citer l'armée aussi. Tous ces centres de pouvoir aux contours parfois flous ont pu se trouver en concurrence. Les législatives, la présidentielle sont souvent rebattu les cartes. Et puis il y a la personnalité assez ébouriffante, encore une fois, du président Ahmadinejad. Alors, l'équilibre des pouvoirs au sein du régime. Alors, en plus, il y a tout le contexte dont on va parler, tout le contexte régional,
oui, c'est ça.
Qui n'est pas flatteur pour Téhéran.
Alors, je pense que pour l'équilibre des pouvoirs, il faut renvoyer à l'origine de la fondation de la République islamique et notamment au principe du velayat et faqih, c'est-à-dire la traduction littérale, c'est la jurisprudence du docte. En l'espèce, c'est la primauté du religieux sur le politique. Donc, à partir de là, tous les organes de pouvoir sont organisés en fonction d'un certain nombre de critères variés. Le pouvoir exécutif du président n'est pas le premier pouvoir, en théorie, dans cette architecture de la République islamique. Simplement, il a pris un poids considérable à la faveur des deux mandats du président Ahmadinejad pour un certain nombre de raisons tenant à l'évolution de la République islamique.
Petite parenthèse, mais prospective, donc, une présidentielle en 2013, mais il ne pourra pas se représenter, se succéder à lui-même, après avoir été réélu et très mal réélu en 2009, et puis des législatives en 2012, en mars 2012.
C'est ça. Donc cette perspective attise les convoitises. On parle d'une guerre des loups, d'une guerre des clans dans les coulisses qui est féroce, qui oppose effectivement, qui travaille le camp dit conservateur, qui n'est pas du tout homogène.
Alors ça, c'est du vocabulaire, vous avez raison, mais on est toujours embêté par l'utilisation de ces adjectifs ultra-conservateurs, conservateurs, réformistes. Ce sont des étiquettes très occidentales.
Très occidentales, qui donnent une fausse idée d'homogénéité, qui n'existe pas. En réalité, il y a deux clans principaux qui s'affrontent aujourd'hui au sein des instances du pouvoir. C'est justement le clan dit des religieux, ultra-conservateurs religieux, qui est obsédé par le maintien, la pérennité du principe du velayat, c'est-à-dire la primauté du clergé sur les laïcs.
On pourrait dire rigoriste.
Oui, enfin surtout
plus
très conservateur. Les radicaux seraient plutôt du côté justement d'Ahmadinejad, les ultra-radicaux qui sont laïcs, mais alors évidemment pas comme on l'entend en France particulièrement. Laïcs au sens de particulièrement religieux à titre individuel, mais non pas investis d'une charge religieuse. Et donc les tensions sont très fortes entre les membres du clergé traditionnel qui veulent maintenir leurs intérêts depuis la fondation de la République islamique et puis cette mouvance souvent d'ailleurs associée à tort ou à raison à une secte religieuse qui s'appelle les Hojatiers, qui est une secte millénariste, mahdiste, qui attend le retour du Mahdi, ce fameux 12e imam qui aurait disparu en 1941 et qui justement serait susceptible de revenir. Et donc ça renvoie à un certain nombre de superstitions que le clergé religieux, notamment les grands ayatollahs, n'apprécie pas vraiment. C'est peu de le dire.
Alors, les soutiens du président aujourd'hui, même si ce n'est pas la pièce institutionnelle essentielle du système.
Elle ne l'était pas, mais elle a tendance à prendre de plus en plus d'importance, justement, dans le cadre de ces tensions. On peut considérer que le point d'équilibre de l'architecture de la République islamique de 1979 est en passe virtuellement d'être bousculé.
Au profit
justement des laïcs en général, qu'ils soient ultra radicaux comme le camp d'Ahmadinejad, voire des laïcs anti-religieux qui se sont manifestés, mais qui n'ont rien à voir avec le camp ultra radical.
J'ai vu en même temps, David Rigoulet-Rose, que le guide n'a pas des propos toujours très amènes à l'égard du président.
C'est un euphémisme, effectivement. C'est un paradoxe parce que là, il est pris aussi dans son propre jeu. Il l'a soutenu dans sa réélection contestée en 2009. Et d'une certaine manière...
Il faut le dire d'ailleurs, c'est important pour nous dans le contexte régional de manifestations populaires très importantes et fort réprimées.
Alors effectivement, de la part d'un camp dit réformateur, c'est-à-dire qui s'exprime à travers le mouvement vert de Moussaoui, Karoubi, et qui a été extrêmement réprimée. Et là, pour le coup, il y avait une certaine homogénéité du camp conservateur, qu'il soit pro-Ahmadinejad ou pro-clergé, pour réprimer ces manifestations. Mais une fois que ça a été marginalisé, les tensions internes se sont remanifestées.
Alors, tensions internes aussi, c'est important au sein du Parlement.
Au sein du Parlement, qui est quand même l'expression globalement de cet esprit du vilayat, c'est-à-dire que la majorité des parlementaires sont des religieux, membres du clergé, et à ce titre-là, ils ne soutiennent pas toujours, c'est un euphémisme encore, le pouvoir exécutif.
Alors j'ai vu justement très récemment que donc le président a limogé son ministre du pétrole, vous me corrigez si c'est faux, et en même temps le président s'est autoproclamé ministre par intérim du pétrole, c'est
ça ? Ministre par intérim, alors là effectivement il y a une interprétation assez contestée et contestable de part et d'autre, c'est simplement l'expression de ces tensions. Le ministre du pétrole, c'est quand même symboliquement, c'est important parce que c'est la manne financière qui peut être utilisée justement dans la perspective d'une future élection. Mais il y avait un précédent, c'était le limogeage de son ministre, de son propre ministre des renseignements, qu'il a dû réintégrer à la demande express du guide de la Révolution, au motif justement que c'est la primauté du guide en l'espèce qui doit prévoir.
Est-ce que vous avez l'impression que cela peut traduire des divisions beaucoup plus importantes au sein même du régime ? C'est l'apparence, c'est ce qu'on en sait, mais que la réalité est beaucoup plus, entre guillemets, saignante.
Elle est féroce.
À ce point-là.
Elle est féroce. On ne peut pas exclure que Ahmadinejad, d'ailleurs, soit victime d'un attentat. C'est assez fréquent dans ces configurations un peu obscures et violentes. Il y a eu un certain nombre d'accidents qui ont été envisagés comme des attentats, notamment le mois dernier. Mais je pense que ce qui est intéressant dans l'évolution du régime de la République islamique, c'est vraisemblablement l'affaiblissement de ce principe du velayat. Et d'une certaine manière, la montée en puissance du clan Ahmadinejad est l'expression de cet affaiblissement du principe du velayat. Et ça induit un certain nombre de conséquences très importantes pour la suite.
Bon, je n'ai pas le temps de vous poser la question, je la pose quand même, vous n'avez pas le temps d'y répondre. Mais David Rigoulet-Rose, en ce qui concerne le contexte régional et notamment l'évolution en Syrie, ce n'est pas bon du tout pour Téhéran, on dit une banalité.
C'est un pion central pour Téhéran. Si le pion saute, les conséquences pour Téhéran sont considérables. Et inversement.
Donc, et on a dit d'ailleurs que l'Iran et la Syrie renforçaient leur mainmise ou leur influence sur le nouveau gouvernement libanais.
Oui, mais là, cette influence va être relativement diminuée au regard de ce qui se passe en Syrie, justement.
Bien, écoutez, en tout cas, on va parler d'ailleurs de la Syrie mardi prochain. Merci d'avoir été en direct avec nous. Franceculture.com, David Rigoulet-Rose. Et nous parlons de la Grèce lundi.